Frédéric Turboux est chercheuse au pôle maritime de la Maison de la Recherche en sciences humaines et travaille avec moi sur des questions de bassin maritime depuis bien longtemps maintenant. Elle s'occupe en particulier de l'espace Manche, mais pas seulement, et de l'Atlas espace Manche, transmanche, que certains d'entre vous connaissent ou pratiquent. Paul Touré dirige, c'est bien ça, tu diriges l'ISEMAR hein, depuis bien longtemps maintenant.
2002.
Depuis 2002, ça fait. Paul est un géographe, nul n'est parfait. L'ISEMAR est une chose rare et assez précieuse dans le paysage d'activité à la fois intellectuelle et opérationnelle dans tous ceux qui ont à travailler pour le maritime, qui en vivent, c'est une grande activité générale. Donc Paul commet tous les mois, je crois, hein, tous les mois, une lettre qui est très suivie parce que très pertinente sur le commerce, l'activité internationale, le maritime international. Bernard Couvin, je n'oserais plus dire depuis combien de temps on se côtoie. Bernard, il est là, et à juste titre, par l'œuvre de sa vie quasiment, La Cité de la Mer. Bernard a été élu longtemps aussi, maire bien sûr, maire, député, président de communauté d'agglomération
et conseiller
régional pendant bien longtemps.
Voilà.
Voilà. Donc là c'est la Cité de la Mer qui nous intéresse, et Michael Dodds qui actuellement dirige l'agence d'attractivité de la région Normandie, donc c'est déjà en soi une grande compétence pour les questions dont nous allons débattre, mais la trajectoire de travail de Michael fait que les questions du maritime, les questions de développement, les questions bien sûr d'attractivité, mais aussi de rapport avec le patrimoine maritime et le patrimoine et le développement est quelque chose dans lequel il baigne depuis quelques décennies quand même. Maintenant, des deux côtés de la Manche, justement. Il ne vous aura pas échappé que Michael Dodds n'est pas spécialement breton comme nom, même s'il y a passé pas mal de temps en Bretagne, au total. Donc, bon connaisseur de ces choses. Donc voilà les personnes qui vont intervenir, chacun avec des éclairages différents, bien sûr, et puis je me chargerai de les pousser et relancer autour de cette question. Frédéric va déjà nous planter le décor sur cet espace Manche dans lequel cette Normandie est placée.
La Normandie a une position privilégiée. Elle se situe évidemment au cœur même de cet espace transmanche. Elle est en fait positionnée en avant, avec le Cotentin un petit peu en avant, hein, sur cet espace qui est aujourd'hui l'un des premiers couloirs de circulation maritime au monde. Pour vous donner un ordre d'idée, un bateau entre ou sort toutes les 10 minutes de cet espace, de ce couloir maritime. Donc, vous voyez, la Normandie a vraiment toute possibilité de développement en matière de commerce maritime, par exemple, de trafic maritime. Mais c'est également, on l'a dit plusieurs fois et on l'a entendu, une façade maritime d'importance, puisque c'est l'une des premières façades maritimes françaises aujourd'hui en termes de commerce, particulièrement avec ses ports, puisqu'elle abrite 8 ports de commerce. Alors, de taille et d'importance très variée, hein, mais elle est également un espace, une région qui génère des flux non seulement est-ouest, vous voyez, des flux montants, mais également des flux transmanches, donc des liaisons maritimes vers l'Angleterre. Et elle accueille à ce titre donc des ports ferries, et non des moindres. Donc on en reparlera, je vous en dirai quelques mots. C'est également une région qui, depuis quelques années, a vu redémarrer un trafic de croisières important, donc un trafic passager, dans ses ports, et j'y reviendrai également. Alors, cette région abrite le deuxième port français, Le Havre. Le Havre, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des millions de tonnes de marchandises, un peu plus de 70 millions. Alors, ça parle pas beaucoup comme ça. Mais c'est le premier port français pour le trafic de boîtes, ce qu'on appelle les containers, les EVP dans le jargon. C'est le premier port français pour ce trafic maritime, avant Marseille. C'est deux fois plus que Marseille, presque. Donc ça positionne un petit peu cette importance que peut revêtir le transport maritime dans cet espace. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la Normandie accueille également le premier port céréalier d'exportation d'Europe, le Rouen. On l'oublie un peu, parfois, malheureusement, mais c'est également un énorme atout. Alors, le trafic dans cette Normandie, dans cet espace-manche, il est très varié. On a une succession de ports côté français, côté britannique également. Vous l'avez compris, donc des échanges nord-sud, est-ouest, en permanence. J'aurais pu vous afficher une carte du trafic en temps réel. Je vous encourage à aller le voir d'ailleurs sur un site qui s'appelle Marine Traffic et sur lequel vous voyez se déplacer les bateaux en temps réel. C'est impressionnant. C'est vraiment l'un des premiers couloirs de circulation maritime au monde. Donc dans cet espace, on a des trafics très variés qui vont du trafic d'hydrocarbures, ce qu'on appelle des vracs liquides, entre autres, des vracs solides. On l'a vu avec le film de Karine sur les dockers. On a vu décharger au port de Caen, vous avez vu, des engrais, des céréales, de la ferraille, du bois. On a des trafics très variés conventionnels et on a aussi des trafics de niche. C'était le cas dans le reportage que nous a présenté Karine. Vous avez vu que le bois exotique, par exemple, c'est un trafic de niche. La ferraille également. Et puis, on a des trafics un peu particuliers. Si je vous dis la nephtéline, ça ne va pas vous parler. En fait, c'est une matière qui sert à fabriquer le verre et la céramique. Et dans la région, eh bien, on a ce trafic particulier. On a également des ports ferries, 5 ports ferries. C'est pas rien, 5 ports ferries sur la façade Manche, parce que, grosso modo, si je vous résume, on a une liaison au départ de Roscoff en Bretagne, une de Saint-Malo, et puis ensuite, il faut monter dans le Détroit, il faut monter à Calais. Alors, vous me direz, on a le lien fixe à cet endroit-là, mais pour la Normandie, on a 5 liaisons ferries permanentes. Alors, permanentes, avant le Covid, évidemment, puisque à l'heure actuelle, compte tenu des conditions sanitaires et de la crise que connaît le trafic maritime, ferry, passager particulièrement, et je ne vous parle pas de la croisière, certaines de ces lignes sont interrompues et on ne sait pas, on y reviendra, quand est-ce qu'elles rouvriront. A priori, les compagnies annoncent janvier 2021, mais rien n'est moins sûr, donc pour le moment, on attend. Alors, je vous ai parlé donc du commerce, des ferries, du transport passager, de la croisière, et puis surtout, cet espace et la Normandie en particulier accueillent de nombreux ports de pêche, et c'est une activité majeure de cette zone, de nombreux ports de pêche, et sur les radars, par exemple, du Cross, vous voyez apparaître une multitude de petits points qui symbolisent tous ces bateaux de pêche qui, tous les jours, sortent, quand les conditions météo le permettent. Donc, on a cette activité qui vient s'accumuler, et donc la Normandie est positionnée vraiment comme la région centrale pour ce type d'activité. C'est plus de, je ne sais plus, quelqu'un me demandait combien de marins dans l'espace. Alors, dans l'espace Manche, c'est 5 000 marins en permanence côté français, vous voyez, et à peu près l'équivalent côté britannique. Les ferries, on en a parlé tout à l'heure, c'est 2 millions de passagers par an quand même. C'est pas rien pour la Normandie. 2 millions de personnes qui traversent en permanence. Et puis, à cela, il faut ajouter la plaisance. Parce que on est face au premier bassin de plaisance au monde, le Solent, et donc on a un trafic de plaisanciers, d'activités de loisirs, de nautisme, qui est permanent, surtout en période estivale, c'est vrai. Cherbourg accueille l'un des premiers ports de plaisance en termes d'anneaux et de mouillage français. Donc on n'est pas devant une région qui tourne le dos à la mer si on s'attache à regarder ces multiples activités. Voilà, alors je ne vais pas vous noyer sous des chiffres et des données, mais dans cet éventail, dans cet espace Manche, la Normandie, aujourd'hui, elle a vraiment une position, elle a joué une carte réelle, parce que sa position est non seulement centrale, mais qu'elle accueille de multiples activités qui la font regarder vers cet espace maritime, et non pas forcément lui tourner le dos.
Merci Frédéric. Paul, si tu veux bien.
D'abord, comme géographe, on est toujours confronté à la même chose, c'est-à-dire essayer d'analyser un espace par rapport à ses données spatiales. Évidemment, pour le maritime, il y a l'espace maritime et l'espace terrestre, donc toutes ces particularités. Et en même temps, on a toujours l'histoire de la comparaison et de comprendre dans quoi on s'intègre. Donc forcément, cette Normandie, c'est quoi ? C'est un bout de côte d'un pays continental qui est la France, qui a une particularité historique, c'est qu'elle est à la fois méditerranéenne et atlantique. Elle a une particularité, c'est que sa capitale se trouve effectivement dans cette partie nord de la France, mais par un grand axe maritime, qui est fluvial, qui est la Seine. Ce rapport à la côte avec un étranger proche, qui est la Grande-Bretagne, dont on est sur 2000 ans d'histoire, à peu près sur 1500 ans d'opposition militaire et politique, pratiquement. Donc un espace qui est à la fois un espace commercial et de rivalité. Donc on essaye d'inscrire cette Normandie. Alors quand je la regarde, qu'est-ce que je vois? Évidemment, je vois et j'essaye de comparer. D'abord, qu'est-ce que la Manche? La Manche, c'est une particularité. C'est un espèce de corridor, un passage. On pourrait presque. Alors tous ces corridors ont un peu la même circonstance d'activité, c'est-à-dire un passage maritime qui n'a pas d'effet économique, qui est la transition maritime du commerce, et d'un autre côté les échanges nord-sud. Alors on pourrait marquer la mer entre l'Espagne et le Maroc. Hein, je ne sais plus comment elle s'appelle la mer. Je ne sais plus le nom de l'île qui est au milieu, qui donne le nom à la mer Aldebaran ou un truc comme ça. Il y a ça, il y a la mer Rouge, il y a le détroit de Malacca lui-même, c'est-à-dire entre Java et la péninsule malaise. On a donc pas mal de cas, c'est-à-dire ce transit. Alors des fois, on a un Singapour, on a un Gibraltar, mais vous remarquerez que Calais n'est pas devenu, ni Douvres, on est devenu le Gibraltar de la Manche, on s'en est privé, ou peut-être que les Britanniques auraient pu le construire, mais on leur a piqué à plusieurs ans, et finalement, on l'a bien gardé. Donc Calais n'est pas le Gibraltar de la Manche. On a donc toujours cette histoire-là, et puis ces histoires d'échange. Alors effectivement, Nord-Sud, qui évidemment, avec le ferry, on va revenir évidemment parce que c'est l'intégration quand même britannique à l'Europe en 73 qui a permis le lancement véritablement des échanges. Hein. La Britannia Ferries commence en 73 au moment où enfin les oignons peuvent rentrer, qui allaient historiquement en Grande-Bretagne, étaient en plus dans un espace économique commun. Donc il y a ce corridor dont on sait déjà, donc corridor qui ne sert à rien. Alors, j'aime bien les Bretons qui disent souvent il y a plein de bateaux qui passent devant Brest. Oui, mais ils passent devant Brest parce que c'est comme ça, il y a rien à faire avec des bateaux qui passent au large. Ça, c'est le trafic. À la rigueur, c'est nos questions de sécurité, hein, le cross de Jobourg, Grinet, et puis on l'a bien vu avec le MSC, je ne sais plus quel était le nom, là, Napoli, etc. Enfin voilà, toutes ces histoires, la Moco avant, tout le risque qu'il peut y avoir. Donc ça, laissons-le de côté, le corridor. Après, il y a l'échange nord-sud, donc je viens de dire qu'il s'était pas mal relancé avec le transmanche et tout le développement des ports et l'accompagnement territorial, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la région Normandie et les départements et ont été partenaires de Brittany Ferries depuis le début, qui ne s'est pas appelé Normandie Ferries, puisqu'il y avait déjà eu un Normandie Ferries d'essence britannique et enfin franco-britannique avait été lancé. Donc ce transmanche qui est à peu près cohérent et qui a sa pertinence, alors pour rappeler, c'est 2 millions de passagers, mais c'est que 200 000 remorques, parce que les remorques ont tendance à aller à Calais parce que c'est des fois la route la plus courte, et puis ce qui fait qu'on a essentiellement un trafic de fret franco-portugais espagnol sur le transmanche. C'est un peu le lot de ces échanges, mais il y a à peu près les mêmes choses en Adriatique. Il y a très peu d'échanges entre des échanges comme ça, donc la route n'est pas très importante. Et puis après, il y a la position historique des ports. C'est là où je vais venir, ce qui rentre aussi dans le patrimoine. Et ça pose la question du patrimoine portuaire et de la continuité économique. Alors, on a une particularité, c'est que Le Havre pourrait être sous Southampton, mais c'est aussi l'entrée de la Tamise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le port équivalent du côté britannique, et Southampton, qui a pratiquement les mêmes fonctions que Le Havre, sauf qu'il n'y a pas l'axe fluvial, puisque Londres est directement communicable. Mais on voit bien cette espèce de port de la Manche, qui est le port le plus court, qui est Le Havre. Et alors, en notant comme ça, on a 5 histoires portuaires très différentes en Normandie et qui font peut-être, et c'est comme ça, comme géographe, qu'il faut toujours réagir, un port à une histoire. Alors, souvent, quand je parle des statistiques portuaires, je dis c'est un peu comme le Tiercé. Il y a que ceux qui connaissent le Tiercé qui savent comment ont couru les chevaux, s'ils sont bons sur terrain mouillé, etc. Les ports, c'est un peu pareil. Un port, il faut connaître son histoire, sa géographie, son interland. Et c'est comme ça, après, on comprend mieux ses trafics et on est à l'aune de le juger. Donc, on voit bien Dieppe. Rappelons 2 histoires de Dieppe. Les fruits, on a oublié, mais c'était un grand port fruitier, à l'équivalent de Portsmouth et de Douvres, qui sont des ports fruitiers britanniques, parce que c'était la route la plus courte. On débarquait là, on avait le chemin de fer et on allait rapidement à Paris. Donc, ce port fruitier qui a disparu dans les années 80. Le Havre avait une vieille tradition fruitière aussi, qui a été perdue avec la grève de 89. Et si Dunkerque est devenu le grand port fruitier, c'est parce que le conflit social de 89 a fait fuir les transitaires du fruit qui sont montés à Dunkerque. Et Dieppe a conservé, alors c'est ça qui est intéressant à Dieppe, c'est la vieille ligne historique du Transmanche, parce qu'on l'oublie, mais c'était la route la plus courte. Longtemps, les gens qui avaient besoin économiquement d'aller en Angleterre passaient par Dieppe et pas forcément par Calais, parce qu'il ne faut pas oublier, Calais et Boulogne sont loin de Paris. Il fallait faire du train. D'ailleurs, c'était plutôt la ligne de luxe, parce que si vous vous souvenez, c'était la ligne, là, il y avait les lignes de nuit de luxe, puisqu'on embarquait pour la nuit, on faisait le train fixe. Mais si vous vouliez aller rapidement, vous allez à Dieppe, d'où les histoires de SeaLink, la ligne franco-britannique de SeaLink. SeaLink, les Britanniques qui abandonnent Dieppe, et toute une histoire du ferry à Dieppe qui finit avec Transmanche, dont je vous rappelle que c'est quand même le Conseil Général qui paye cette ligne avec, alors je me souviens du débat, mairie communiste à l'époque en plus, les 30 millions d'apports britanniques à l'économie diepoise qui justifiaient la ligne, etc. Mais voilà, pour dire, il y a cette histoire-là, ce qui renvoie les Diepois finalement à leur rôle de port de nord-sud, de niche pratiquement, et ce qui peut valoir aussi peut-être que le Brexit n'est pas une mauvaise affaire. Peut-être que demain, on en parlait dans la voiture, peut-être que cette économie britannique qui se détache, elle crée aussi peut-être une néo-insularité, et peut-être que cette néo-insularité va ramener les Britanniques dans ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire le plaisir de la découverte de l'en face, ce qui renvoie sur cette mer intérieure, et peut-être c'est une position que peuvent avoir aussi les Normands. Demain, c'est d'être à nouveau, on avait ça à Boulogne aussi à un moment, le plaisir d'aller en France, d'aller consommer, d'acheter de l'alcool et du tabac éventuellement, et voilà, d'une France d'en face, et qui mériterait des fois du côté des Normands d'une Grande-Bretagne d'en face. Mais ça, c'est à vous de répondre si les Normands sont aussi capables d'avoir cette vision de cette mer intérieure où l'en face a un intérêt du... On en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui disait « je ne suis pas allé en Grande-Bretagne depuis très longtemps ». Voilà, c'est aussi peut-être ça que peut retrouver cette Manche partagée. Après, on a l'histoire du Havre, alors histoire océanique. Deux histoires, on a peut-être parlé hier, les transatlantiques et les produits coloniaux, qui ont été remplacés par un nouveau produit colonial qui est le pétrole. Donc l'histoire pétrolière du Havre avec ce port d'antifère, le port XXL qu'a bien voulu construire la France pétrolière des années 60. Et puis la ligne conteneurisée qui est donc cette modernité de ce port de ligne régulière, avec une image qu'on a souvent, deux images que j'ai. D'abord, les Havrais sont contents d'eux. Je ne sais pas s'il y a des Havrais ici, mais c'est l'image que j'ai toujours eue du Havre, ce qui les empêche des fois un peu peut-être de réfléchir à ce qu'ils sont. Et il y avait bien le concept de la porte océanique. Et pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est important? Parce que le Havre n'est pas un port d'armateur. C'est un port d'agent maritime. C'est un port de ligne régulière. Et il lui a toujours manqué par rapport à Marseille. Et ils ont des gros défauts, les Marseillais. Mais comme je suis d'en bas, je les comprends un peu mieux que les Havrais. Voilà, le Havre a toujours un peu ce défaut, c'est-à-dire d'être une espèce de projection à la fois du bassin parisien vers l'océan. Ce port de ligne régulière, c'est de confronter finalement un truc qu'il ne maîtrise pas. Les compagnies havraises ont disparu depuis longtemps. On a eu longtemps la NHCP qui appartenait au groupe Worms. On avait eu Delmas qui avait sa principale implantation. Aujourd'hui, on a un PSMA CGM. Mais il manquait toujours ce... Voilà, au Havre ne maîtrise pas forcément son destin océanique. Alors, heureusement, elle a toujours fait... Les ingénieurs français... Je suis dans les temps, ça va dans la... Il y a toujours... Les ingénieurs français ont très bien fait les choses depuis Louis XIV... Depuis François Ier jusqu'à la reconstruction, le Grand Canal, l'aménagement de la plaine alluviale, le port 2000, tout ça, c'est des belles réussites. Maintenant, on est toujours confronté, voilà. C'est un destin qu'elle ne maîtrise pas et souvent peut-être une difficulté à comprendre ce qui se passe ailleurs. Il y avait un très belle publicité dans les années 90 qui était pratiquement aussi le signe de la maladie. Il y avait un truc qui avait marqué, Le Havre, Paris 200 km. Et c'était ça la communication du Havre. Or, c'est pas ça le Havre, hein. C'était un panneau du port autonome, hein. Une publicité du port autonome, où il y avait marqué Paris 200 km, en disant aux armateurs, vous débarquez là, vous allez vite au marché. Mais ça, c'était une vision des années 80. Aujourd'hui, on sait qu'il faut des entrepôts logistiques, du coup, le Havre a pas mal, justement, le parc de Normandie, et le port, qui effectivement, un port d'agent doit devenir un port de logisticien. Ça sera jamais un port de la décision maritime, comme peuvent être éventuellement, évidemment, la tour à Marseille de CMA-CGM et des choses comme ça. Mais on le voit bien avec la plateforme logistique qui se réinvente avec l'histoire du connexion ferroviaire, hein, Cercle Givor, voilà, toute cette modernité-là. Donc il faut que le Havre arrive à toujours ce défi havrais, c'est de s'intégrer dans la globalité maritime avec des atouts et des fois quelques défauts, mais encore une fois... Je crois qu'on peut saluer l'avantage peut-être d'avoir un ancien maire qui a été Premier ministre. Mais avant, il y avait Ruffnac qui disparaît il y a quelques jours, le Grand Paris, Aropa, etc. Donc une inscription qui permet quand même... Voilà, le Havre doit être dans une forme de modernité. Ce n'est pas toujours facile quand on n'est qu'un port. Il faut peut-être que ça soit tiré par des politiques d'État, par une action commerciale. Enfin, c'est vraiment le problème de la magie havraise qui doit être tout le temps pour rester. Et par exemple, avec le Covid, il y a des escales qui ont été sautées au Havre. Les armateurs décidant que... autant remonter directement envers Rotterdam, on trouvera toujours une solution. Ce qui donne une... Alors, il y a eu ça à Marseille aussi, rassurez-vous. Mais ce qui peut, voilà, ce qui est toujours la question d'être vraiment la plate, le port de l'économie, du nord de l'économie française. Juste une chose pour rappeler, en bon géographe, l'essentiel des plateformes logistiques pour des questions de prix du foncier, de disponibilité, sont à l'est de Paris. Ce qui fait que quand vous êtes à Noisy-le-Sec, à Melun ou à Euro Disney pour autour, la distance en temps, le time transit en temps entre Anvers et Le Havre est pratiquement équivalent. Donc c'est pour ça qu'on est aussi dans cette complexité-là. Et d'un autre côté, Le Havre rayonne jusqu'à la banlieue nantaise. Donc Le Havre a gagné sur un interland français qui était acquis aux autres ports, et d'un autre côté doit se battre. Mais voyez à peu près tout ce concept de cette Normandie, on va dire, océanique. À côté de ça, il y a la vieille Normandie portuaire de Rouen, hein, Rouen port charbonnier, Rouen port papetier, Rouen port forestier, Rouen port africain et Rouen port céréalier. Toute cette histoire-là qui est à la fois qui ressemble aux vieilles histoires portuaires françaises de Bordeaux et de Nantes, hein, c'est une vieille histoire coloniale européenne, puisque Rouen a toujours eu des connexions avec l'Europe du Nord, hein, notamment les histoires de papier, puisque la presse parisienne mangeait du papier rouennais. Et encore aujourd'hui, le cas avec Stora ou UPM et tout ça. Voilà, aujourd'hui, bon, la question d'Aropa, c'est pour nous, c'est l'exemple même du port de commerce. Il y avait un très bon a priori dans le monde maritime français sur la communauté portuaire rouennaise, parce qu'elle semblait en adéquation avec le commerce maritime traditionnel. Et cette image, justement, d'où aussi ces rivalités rouennaises-havraises entre le port océanique, des lignes régulières où on est, j'ai failli dire les laquais, non, mais les serviteurs des grandes lignes maritimes versus un port rouennais devant se battre avec ses capacités. Et aujourd'hui encore, on a des lignes africaines à Rouen parce que Marfred, par exemple, est un petit armateur français, mais qui est très présent à Rouen parce que c'est là où on fait le service, c'est là où on fait le service que demandent les marchandises compliquées. Vous voulez envoyer des engins de chantier en Afrique, il vaut mieux passer par Rouen et ses acteurs, etc. On a la même chose sur le papier. Ouais, donc cette histoire rouennaise un peu particulière, et puis évidemment l'histoire céréalière qui est sur le complexe céréalier. D'ailleurs, une petite anecdote, j'ai fait une note de synthèse. Les EMA ont fait des notes de synthèse, il y en a une sur Le Havre et une sur Le Havre-Rouen, écrite en même temps. Et en cherchant, je me suis aperçu que 60% des grains arrivaient en camion à Rouen. On a toujours eu l'impression que les grains passent la Seine et les chemins de fer. Non, mais parce qu'ils viennent du pays de Caux, ils viennent du nord de la... Donc on oublie aussi, c'était une histoire d'agriculture de proximité. Et l'agriculture normande ou du nord-ouest de la région centre. Donc voilà, cette histoire rouennaise un peu différente, avec l'axe Seine derrière. Donc ce port du grand bassin parisien, Aropa et tout ça à construire. Et je comprends quelque part les difficultés identitaires qu'il peut y avoir entre Le Havre et Rouen. Puis après, on a deux histoires un peu spécifiques. Qu'on ne connaît pas forcément en France, mais c'est évidemment les exportations de fer. À Nantes, on recevait du fer de Caen. Parce qu'à un moment, c'était... Il ne faut pas oublier, il y a une histoire du bassin de fer de Caen. Et à contrario, on recevait du charbon d'Angleterre, puisqu'il fallait bien. Donc, il y avait le charbon qui descendait du pays de Galles. L'histoire céréalière, on le voit bien sur la photo, puisqu'on voit bien la plaine de Caen et l'histoire céréalière. Une tradition du bois, on ne sait pas toujours. Mais Caen a bouffé des parts de marché en bois tropicaux à Nantes. Justement, sur des savoir-faire locaux de vieilles traditions portuaires, le port de Nantes est en train de se vider en bois tropicaux, mais quand on le préserve, évidemment, je dois parler d'Honfleur, petite parenthèse, le port forestier d'Honfleur, avec les boîtes de déroulage, petite histoire du bois normand, pourquoi on a des ports forestiers normands, y compris des boîtes de déroulage. Alors, c'est pour faire du contreplaqué avec le coumet, mais en fait, la vieille histoire, c'est l'histoire du beurre. Il y a deux histoires de contreplaqué en France, c'est l'histoire charentaise et l'histoire bretonne, normande. En fait, il y a des traditions de bois de roulé avec le peuplier. Et en fait, le déroulage du savoir-faire du peuplier pour le beurre dans les régions de l'étage française ont amené historiquement les filières, notamment autour de Lisieux, d'Évreux, ou je ne sais plus par où. C'est à Lisieux, hein. Les histoires forestières. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a une filière bois tropicale à Honfleur, qui est lié notamment à cette histoire du contreplaqué et les bois brésiliens, notamment, qui sont une vieille habitude du port de Caen. Alors, toujours pareil, comment cela peut survivre sur une autre décennie des trafics historiques qui peuvent décliner? On a évidemment l'histoire d'Ouistreham, j'ai déjà raconté. Et puis Cherbourg. Alors, j'ai travaillé pour Cherbourg parce que le port a un moment réfléchi à la conteneurisation. Et puis, je leur avais dit dans la colonne, Cherbourg est historiquement un port d'opportunité. Et on y fait des choses à un moment X ou Y pour des questions d'opportunité. Les chers bourgeois le savent très bien, il y a eu les automobiles, parce qu'il y a eu Toyota pendant toutes les années 70, qui est parti en 84, je crois. On avait eu les jaquettes. Moi, je ne l'ai pas vécu en n'étant pas là, mais les grandes jaquettes de l'industrie pétrolière qui étaient évidemment à Cherbourg. On a eu, et maintenant, on a les EMR. Preuve que, voilà, est-ce que tu disais au port de Cherbourg, vous avez de la place, vous n'êtes pas trop embêté par la ville parce qu'elle est un peu loin, vous serez un port d'opportunité. Et c'est peut-être ça qui est intéressant parce qu'en fait, les Normands ne le savent pas très bien, mais Cherbourg est une île, en fait, économiquement. Enfin, c'est un projet. L'Interland n'existe quasiment pas à Cherbourg, on va en discuter, mais c'est pratiquement une île au milieu de la Manche du point de vue économique. Pourquoi je vous dis ça? Sur les trafics de camions, en fait, les camions préfèrent aller à Caen. Pourquoi ils préfèrent aller à Caen? Parce que quand vous venez d'Espagne, vous économisez 3 heures de route. Et il vaut mieux être à Caen et aller faire sa liaison transmanche que remonter les 3 heures de route que vous prenez au tachomètre, etc. Ce qui explique qu'historiquement, quand ils ont mis le Mont-Saint-Michel en 2003, bah, ils ont offert de la capacité. Et là, et c'est pour ça que Caen est un meilleur port aujourd'hui, des fois, de remorque que les Cherbourg. Mais Cherbourg à l'Irlande. Et vous avez entendu qu'évidemment, avec le Brexit, la Brittany Ferries accentue l'Irlande. On a parlé de la liaison Bayonne-Cherbourg en ferroviaire. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant sur Cherbourg. Donc c'est un port d'opportunité. Sur la containerisation, on essaie de travailler. On avait un peu de mal à le concevoir. Mais alors, ça veut dire aussi, pour terminer un peu cette histoire portuaire, c'est que c'est un port de commerce. Alors le problème, c'est qu'on a eu la question de l'industrialisation portuaire, qui est peut-être un épiphénomène dans l'histoire portuaire mondiale, enfin l'histoire des ports depuis les Romains, voire depuis le Néolithique. Ça reste un moyen de décharger de la terre à la mer. Et l'industrie portuaire telle qu'on l'a conçue, c'est-à-dire de mettre des usines automobiles, de la sidérurgie, de la pétrochimie, est peut-être qu'un moment. Qui peut savoir si Gonfreville et l'Orcher existera encore en 2040? Peut-être pas. Par contre, l'importation de pétrole ou de gaz, etc., peut. Et c'est aussi ça dans l'histoire portuaire. Elle est aujourd'hui beaucoup marquée par ces industries portuaires, mais peut-être que ça reste le port de commerce. D'où l'intérêt, pour un peu retomber sur mes pattes, de cette Normandie qui est un bout de l'interface entre la France et le monde. Cette particularité, c'est qu'on a un monde proche qui est la Grande-Bretagne. Et c'est comme ça que je peux lire un peu avec cet atout particulier qui est ces deux histoires un peu différentes, cette histoire de l'axe Seine qui la met sur le, évidemment, qui en fait un. La pénétrante par rapport au bassin parisien, et puis ce port de corridor nord-sud, enfin d'espace nord-sud qui peut échanger. Et puis pour finir mon propos, avant que tu me reposes une question, il y a deux histoires qu'il ne faut pas oublier, qui s'intègrent là-dedans et qui rentrent dans le patrimoine, et ce n'est pas toujours facile à savoir comment elles rentrent. C'est l'histoire de la navale normande, qui est, il ne faut pas oublier, le chantier de Dieppe, les ACH, disparu en 2000, le chantier du trait de Worms créé en 1917 parce qu'il était loin du front. On l'oublie, mais il y avait un chantier à Caen pour les mêmes histoires, 1917-1954, créé aussi pour les besoins de guerre. Évidemment, les chantiers navals de Normandie, mécaniques de Normandie à Cherbourg, plus évidemment l'histoire maritime. Alors, cette histoire navale, et on en parlait tout à l'heure sur Nantes, il ne faut pas oublier que dans ces villes, souvent la navale avait plus d'emprise culturelle, sociologique, politique que le port. Ou à équivalent. Alors, au Havre, c'est un peu particulier, mais vous avez une ville comme Nantes, je pense. Nantes-la-Rouge, c'est la Nantes navale. C'est pas la Nantes portuaire. Nantes portuaire, c'est le quai de la Fosse et les bordels du quai de la Fosse, si je devais résumer en gros. Ça, c'est les marins, etc. Ce rapport, évidemment, les grues, il y a des dockers, je ne dis pas. Mais c'est souvent cette histoire navale. Et puis, il y a une dernière histoire qui est l'histoire capitalistique du monde maritime. J'ai parlé des agents tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait la Canaise qui a été longtemps un armement des outre-mer français, qui a une histoire à Caen. On avait la maison Worms, qui était aussi pas mal installée sur Rouen avec des activités. La Canaise était d'ailleurs dans le groupe Worms. On a aussi cette histoire, mais bon, de la Canaise, de la NCAP, de la péninsule et Havraise, excusez-moi, pour Worms. Et donc, on a cette vieille histoire armatoriale ou maritime qui est souvent un peu diffuse. Et pour dire que derrière, je vous ai parlé d'économie bleue, et puis, mais ça fait peut-être la transition, avec ce patrimoine historique de l'économie maritime. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler exactement, et dans lequel j'ai oublié un port d'opportunité, ça vient de me revenir. C'est finalement à Cherbourg, les transatlantiques, qui a été une histoire aussi. Hein, rappeler la dernière escale, nombre d'immigrés ou de choses comme ça qui chopaient ce dernier bateau qu'on pouvait encore prendre sur la ligne. Donc voilà, c'est l'histoire de Cherbourg. Mais je ferme cette histoire. Voilà, il y a l'économie bleue et puis ce patrimoine historique composé finalement de l'histoire maritime, de l'histoire de la navale et l'histoire des compagnies maritimes qui rentrent dans cet espace. Et puis c'est peut-être la question pour le vivre. Le problème de la mer, il faut. Moi, j'ai l'avantage, je travaille, j'habite au bord de la mer, mais la mer, passer 10 km, c'est déjà, elle disparaît déjà derrière l'horizon de la réalité des vies. Hein. Je relance sur cette question de l'identité que peut avoir la Normandie, mais les Pays de la Loire ont la même chose. La Bretagne, c'est un peu différent parce que le pathos est au-dessus de tout en Bretagne et ça complexifie. Mais en Provence, moins en Languedoc, parce que Languedoc, c'est un peu comme l'Aquitaine et le nord de la France et les Hauts-de-France, la mer est un peu. Le rapport au port et au territoire est plus diffus. Mais en Provence-Côte d'Azur, enfin sur la côte provençale, sur les embouchures de la Loire et sur la Normandie, on a une intensité très forte du patrimoine, de la culture maritime, mais a-t-elle vocation à dépasser les 10 kilomètres du littoral? Parce qu'on est à Évreux, à Lisieux, ou à Ancenis, ou à Angers, où est là encore la mer? On va dire la mer est peut-être une expérience économique, sociologique et patrimonial qui n'existe que dans l'espace maritime et sa proximité. D'où la complexité de construire aussi ce rapport d'identité, voire d'attachement qu'il peut y avoir. Alors nous, en Pays de la Loire, on est simple, on a un logo qui est bleu et vert. Bon, on a de la chance, c'est qu'on a nos grands chantiers navals de Saint-Nazaire qui donnent une force, une visibilité. Voilà, on a une façade maritime, les Vendéens et nous, et puis après, on a aussi le cheval, comme en Mayenne, etc. Donc on a cette partie agricole et maritime qu'on arrive à peu près à gérer. Ce qui est évidemment, à la rigueur, la Normandie a presque plus d'atouts que nous, puisque la façade est grande, etc. Mais toujours cette complexe. Que faire de la mer, ne pas trop en faire? Les Bretons en font trop, ou pas en faire? Nous, on a un peu du mal à la trouver, parce que c'est d'abord une expérience vendéenne et nazérienne, pratiquement, la mer. Voilà, je parle beaucoup, mais...
Merci, Paul. Je te relancerai évidemment sur la partie maritimité, économie bleue, sur lequel tu as...
Michael, si tu veux bien...
J'aime pas, surtout en ce moment, faire beaucoup de comparaisons entre l'activité au Royaume-Uni et la France. C'est une période particulièrement difficile en ce moment pour des anglo-irlandais, je reprécise, avec ce contexte de Brexit et l'incertitude totale que ça provoque. Mes illusions...
européen.
Exactement.
Ce qui rend le malaise.
Voilà. Heureusement, ma mère est irlandaise, comme ça, je garde ma citoyenneté européenne. Et je réclame le passeport, donc c'est bien. Mais les comparaisons avec la Grande-Bretagne sur cette question de patrimoine maritime, j'ai aucun problème à la citer parce que je pense que c'est pertinent. Et je pense que la Normandie, avec ses liens particuliers avec le Royaume-Uni, les comparaisons sont importantes et les liens sont importants. C'était une source de fierté, peut-être la chose dont je suis le plus fier depuis que je suis arrivé en 3 ans en Normandie, c'était le jour de Brexit. J'ai réussi à convaincre le conseil régional de prendre plein de pages dans le Times et dans le Evening Standard avec une photo du diable incarné, Nigel Farage, mais avec sa tête coupée un petit peu là, on voyait que ses yeux, portant une cravate de la tapisserie de Bayeux, et avec un jeu de mots sur le mot cravate, ties en anglais, disant « some ties endure », avec un message disant « on ne va pas vous laisser défaire l'histoire, il y a plus de choses qui nous réunissent que nous désunissent ce jour de Brexit ». Donc, je pense que la Normandie a vraiment besoin d'accentuer ses liens dans le futur. Mais sur le thème de patrimoine maritime, et l'approche britannique de la question de patrimoine maritime, je pense que c'est intéressant et ça peut être source de réflexion. Si je cite les villes de Liverpool, Belfast, Cardiff, Bristol, London Docklands, Portsmouth, Plymouth, qu'est-ce qu'il y a comme lien entre ces villes? Bon, d'abord, ils ont tous un super musée maritime, hein, qui vaut le détour, ça c'est certain. Ils ont tous également des bateaux flagships que les gens connaissent. Le Cutty Sark à Greenwich, c'est un nom que tous les Anglais connaissent. Le Mary Rose à Portsmouth, bien sûr. Le SS Great Britain à Bristol. Ils sont tous dans l'imaginaire, je dirais, des foyers en Grande-Bretagne. Et même à Liverpool, le Mersey Ferries. Vous ne pouvez pas faire un saut à Liverpool sans être à bord le Mersey Ferries et faire un petit tour sur le bassin de Merseyside. Très bien. Mais plus important encore, toutes ces villes que je viens de citer ont été le sujet d'un vrai effort continu de renouvellement urbain qui a clairement mis leur façade maritime et la valorisation du patrimoine maritime comme un élément essentiel dans le travail de réaménagement et bien sûr la communication qui est autour pour gagner en attractivité. Alors, on peut dire qu'il y a une vraie passion pour le patrimoine maritime au Royaume-Uni. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a une véritable sensibilité sur ce sujet. Mais en même temps, moi je vais être très franc avec vous, tous ces efforts ont été faits par nécessité. Par nécessité. Ils ont été aussi faits parce que les autorités en question n'avaient pas le choix mais d'agir sur la valorisation de leur quartier portuaire et le développement de nouvelles visions pour leur quartier portuaire. On est en train de parler des années 80, 81, les émeutes de Brixton à Londres étaient suivies par Toxteth à Liverpool, qui étaient suivies par d'autres émeutes urbaines dans l'ensemble de ces différentes zones. On est en plein début de l'époque Margaret Thatcher, il fallait des réponses rapides, et une des réponses, c'était la création des development corporations, donc les nouvelles formes d'autorité urbanistique qui étaient confiées avec plein de pouvoirs. On associe la période Thatcher avec le libéralisme extrême en même temps. Il y avait une forme d'interventionnisme extrême également qui a secoué ces différentes villes et ces différentes métropoles avec une obligation de concevoir et de mettre en œuvre un aménagement urbain de leur quartier portuaire dans une période définie et très courte. C'est quand même fou qu'on imagine ces development corporations. Ils étaient lancés au point de départ avec une durée de vie de 8 ans. Après, ils ont été prolongés jusqu'à 17 ans, je pense qu'au moins la plupart des cas. Mais bref, concentration de pouvoir, cadre plein de pouvoir en termes d'organisation, et une urgence et une obligation de concevoir des plans d'aménagement ambitieuses. L'identité portuaire et la notion de patrimoine maritime a donc été un des composants d'une vision globale qui était élaborée dans l'ensemble des villes que j'ai citées. Et moi, j'ai eu la chance de démarrer mon carrière fraîchement avec des études d'histoire et de recreation et tourism management en poche, de tomber dans le cabinet LIR qui a surfé sur cette vague d'impulsion de renouvellement urbain, très inspiré aussi par le modèle américain, au milieu des années 80. Tout le monde parlait de Baltimore Harbor Place. C'était le lieu magique qu'il fallait voir où il y avait une relance des espaces urbains et portuaires, avec quelque chose qui était très intéressant, je pense, et qui a été bien imprégné depuis, avec une vraie acceptation et encouragement de la mixité des usages. Et je pense que une vision globale a été obligatoire, et je dirais l'ensemble des activités de commerce ont été obligés de coexister avec des activités résidentielles, commerciales, touristiques, culturelles. Et ce besoin de repenser l'espace pour privilégier cette mixité, c'était important. C'était plus ou moins réussi. London Docklands, je me rappelle, organisait un voyage d'études au début des années 90 avec des équipes françaises, étaient carrément horrifiées par presque l'absence de planification qu'il y avait. Les promoteurs qui veulent investir, tout était presque permis, quoi. Mais d'autres, comme Cardiff Bay, où tout était planifié et presque à la lettre, il y avait des vraies stratégies d'aménagement des espaces, mais privilégiant la mixité qui étaient réfléchies. Mais ce besoin d'une approche globale, je dirais, était imposé, et aussi quelque chose qui les encourageait un peu, et ça va être très différent quand on contraste les situations en France. En même temps, toutes ces villes avaient des zones de chalandise phénoménales. Et donc, l'invention des équipements qualitatifs, il y a toujours un public, il y a toujours un marché. On n'est pas, par exemple, en situation de Cherbourg où il faut vraiment attirer les gens pour faire venir. Non, mais on va parler. Ça recommence, nos vieilles histoires. Mais en tous les cas, en France, en Angleterre, commençant des années 80, et poursuivi, bien sûr, et tout le mouvement, Pascal, effectivement, le fonds Millennium aux années et la loterie nationale 2000 a permis également des financements particuliers et l'encouragement d'avoir une vraie vision globale portée pour ces différentes villes portuaires. En France, j'ai eu la chance de venir en 92 au point de départ pour un stratégie de développement touristique pour la ville de Bordeaux. Je suis arrivé en comprenant que waouh, le contexte était différent. Je voyais les villes qui avaient moins faim, pour dire les choses basiquement, moins faim, qui vivaient plus ou moins sur ses acquis, et l'impulsion n'était pas là. C'était la vision d'un élu ou un champion qui allait pousser une nouvelle dynamique. La nécessité d'avoir une vraie vision globale n'était pas là. Et puis, bien sûr, j'étais confronté par des questions en termes de gouvernance, extrêmement morcelé, où on m'avait bien fait comprendre à Bordeaux que vous savez, ça c'est la restriction de le port de commerce, ça c'est le champ de commerce, ça c'est peut-être l'agglomération, ça c'est la ville, et puis bien sûr, certaines zones restent le domaine maritime de l'État qu'il faut bien respecter. Et toutes ces différentes contraintes de gouvernance me disaient que waouh, il faut une sacrée coïncidence d'intérêt pour essayer de porter une vision globale d'un espace portuaire. Mais au fil du temps, et je pense qu'on peut tous dire ça, ces dernières 25 ans, on a vu une réveil, je pense, importante des différents quartiers portuaires françaises. On a vu Bordeaux et ses quais aménagés qui se transforment. On a vu Nantes, maintenant, vivre une belle période avec tout l'aménagement de l'île de Nantes. On a vu également des villes comme Dunkerque, petit à petit, transformer. Et on a parlé de Saint-Nazaire. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec Joël Batteux pendant une quinzaine d'années à différents moments sur la transformation et le projet Villeport de Saint-Nazaire. Ça avance, peut-être pas à le même rythme, et c'est un process extrêmement long, mais ça avance. Alors si, en Normandie, avec les propos de Paul et Frédéric au préalable, waouh, c'est vrai que c'est 5 ports, ça commence par rien, c'est normal que la Normandie réfléchisse sur ces questions, et c'est évident, les premières impressions, en commençant à comprendre la dynamique des différentes villes, toute mon attention, je n'ai pas rencontré Antoine Ruffnacht, je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec Edouard Philippe sur les questions, mais le Havre, ouais, je trouve que c'est assez spectaculaire ces dernières 20 ans. Elle a réussi à changer son image. Il y a eu des efforts importants d'aménagement des différents espaces publics dans les différentes zones portuaires. Il y a toujours des zones extrêmement bien distinctes qui sont peut-être tabous pour le public aussi. On ne peut pas vraiment parler de mixité partout, ça, ce n'est pas vrai. Mais en même temps, un vrai effort de valoriser les façades maritimes, un vrai effort également de valoriser les patrimoines et avoir un investissement dans les équipements touristiques et culturels dans un sens de donner encore plus de sens à l'espace urbain et l'attractivité de l'ensemble, je pense qu'on peut dire que le Havre a réussi. Et puis, le fait de vouloir investir pas que sur le hardware, mais le software également, avec l'été au Havre, avec une politique d'animation qui va avec. Moi, je pense que je vis ça maintenant en tant que directeur en parallèle du comité régional de tourisme. Sans hésitation, on met en avant le Havre comme un signe de ville moderne qui se reconstruit, qui a un vrai contraste à Rouen et à d'autres villes où c'est plutôt l'aspect historique et médiéval qu'on met en avant. Rouen, je pense qu'elle se transforme. Ça, c'est évident. Je constate une vraie transformation ces dernières 15 années, avec notamment la restauration de la ville historique et un vrai développement jusqu'à là de l'activité touristique à Rouen. Je vois également, bien sûr, l'aménagement des quais qui crée un cadre de vie encore plus sympathique et intéressant pour le Rouen, même si une partie de moi dit que mais ça manque encore un peu de magie pour que ça devienne vraiment un lieu de détour touristiquement parlant. Et puis je vois aussi, dans les autres ports, les petits bouts d'efforts de valorisation importants. Quoi. Si c'est le musée de pêcherie à Fécamp, si c'est des ambitions de petit à petit aménager des éléments à Dieppe. Et puis je suis à côté d'un monsieur qui a défendu bec et ongle la restauration d'un édifice de la gare maritime de Cherbourg et concevoir un projet autour. C'est absolument remarquable le travail qui a été fait. Et ça permet Cherbourg, bien sûr, d'être inscrit sur la carte touristique normande et française comme un must-avoir. Mais j'ose dire qu'en Normandie, c'est vraiment work in progress. J'ai l'impression qu'il y a eu des efforts faits, et je pense que ça, c'est aussi, on va en parler de ça, Bernard, mais je pense qu'on a réussi, dans certains endroits, à focaliser l'attention sur un équipement ou une thématique tout en particulière, provoquer les financements publics nécessaires pour leur aménagement et les défendre, mais rarement les investissements, soit dans le site de la mer ou l'investissement dans d'autres équipements en Normandie, ont été soutenus par une vraie réflexion globale sur comment l'investissement dans le patrimoine maritime, culturel ou touristique puisse servir comme le vernis qui attire pour un nouvel projet d'aménagement urbain auprès de l'espace portuaire. Je pense qu'un des défis pour Cherbourg dans le futur maintenant, c'est non seulement le maintien de l'attractivité du site de la mer, mais c'est aussi comment Cherbourg elle-même vit comme destination urbaine agréable à vivre, ainsi que destination touristique qui vaut le chandelle. Et je pense que ça, c'est le défi, je pense que pour l'ensemble des ports normands dans le futur, c'est d'essayer de créer les conditions où on peut se projeter. C'est extrêmement difficile de se projeter à long terme, surtout en ce moment, dans le contexte qu'on vit, Covid et le reste. Mais d'imaginer la valorisation du patrimoine maritime et l'espace maritime et ses liaisons avec le reste de l'espace urbain me semble une excellente voie de réflexion pour le futur. Et je pense qu'à mon petit niveau, je vais essayer d'encourager cette réflexion, qui est forcément prometteur pour l'avenir. Ce qui réunit tout le monde dans tout ça, ce n'est pas que la passion pour le patrimoine, c'est le pouvoir d'attractivité de l'eau, pur et simplement, quoi, qui reste un grand, grand, grand constant et qui reste, pour moi, une réflexe de base dans les ambitions urbanistiques et l'avantage numéro un de toutes les différentes villes portuaires, tout en maintenant et se protégeant d'une dérive. On parlait tout à l'heure, hier, ce concept de patrimonialisation. Je pense que l'avantage des villes portuaires, c'est qu'il y a une vie, il y a une activité à défendre. On n'est pas sur l'artificialisation, la conception des aménagements hors sol. Cette âme a besoin d'être défendue dans la durée. Et c'est ça le premier socle de départ de toute réflexion future.
Et donc Bernard ?
Je suis né dans le Cotentin, et comme d'autres, on est raccroché à son enfance. Et moi, toutes les semaines, je voyais un paquebot qui faisait Cherbourg-New York, ou New York-Cherbourg, ceux de la Cunard, etc. Et puis, je suis né après la guerre, et bien entendu, notamment dans les années 50, je rêvais de voir Elizabeth Taylor au sommet de sa splendeur dans les salons de la gare maritime. Bien entendu, j'ai jamais pu l'approcher. Hein. Voilà, ne vous faites aucune illusion. Donc, ce sont des rêves qu'à un moment, on a envie de traduire dans une presqu'île qui est quasiment une île, parce que ça, au niveau des mentalités, hein, et de gens, globalement, qui restent avant tout des terriens. Quand vous discutez avec les pêcheurs, avec les hommes du port, avec ça, ce sont des marins, mais globalement, voilà. Pourquoi ? Parce que cette presqu'île, et j'en suis fier en même temps, parce que j'en suis issu, j'entendais Paul tout à l'heure parler de ça, c'est d'abord la construction navale. C'était Cherbourg bourgeoise, mais en même temps Cherbourg la Rouge. Hein. Moi, j'ai été maire 17 ans d'une ville qui a été la première ville socialiste du très grand Ouest, avec à la tête de cela un petit serrurier, ouvrier serrurier, compagnon de route de Jean Jaurès. Voilà, 1890 ou 1900. C'est toute une histoire de la navale, et donc avec ça, ça ne forge pas obligatoirement l'envie de on construit, mais bon, après, surtout qu'en plus, on construisait des sous-marins qui partaient sur Brest, donc voilà. Donc c'est d'abord cette histoire. Ensuite, le nucléaire est arrivé avec toute sa richesse, toute sa force, sa projection, chance économique extraordinaire, mais en même temps, on est entre nous, j'espère que ce ne sera pas répété, ça a quasiment tué tout le tissu économique des petites et moyennes entreprises, parce que c'était des coûts prohibitifs et il fallait surtout atteindre des technologies de la maîtrise de l'inox et autres, tout ça disparaissait. Voilà. Donc un taux de chômage, Claude, tu sais bien, un taux de chômage relativement bas, mais derrière, une désindustrialisation, puisqu'en définitive, il y avait la centrale nucléaire de Flamanville, hein, voilà. Et puis derrière tout ça, rien. Et en même temps, la dernière gare maritime transatlantique d'Europe, encore debout, Art déco, qui disparaissait, qui allait disparaître progressivement par l'érosion au fil du temps, des associations de bénévoles qui se battaient pour que ce patrimoine soit préservé, où personne ne voulait mettre un sou, parce que c'était tellement immense, parce qu'elle est immense quand même, hein, que même l'État, voilà, donc personne, donc voilà. Et puis 90, le redoutable premier sous-marin nucléaire français revient, et je me dis, alors c'est là que ça commence à être fou. Comment on marie cette cathédrale Art déco de 1933 avec le premier sous-marin nucléaire français lancé par De Gaulle, le président de la République, en 1967? Comme on dit, on ne fait pas grand-chose. Alors, vous avez d'un côté les ingénieurs militaires, les amiraux, tous, ils voulaient sauver ce redoutable au nom de ce qu'il représentait, puis d'autres, la pierre, et puis personne ne voyait comment le réunir. Et j'ai eu la chance extraordinaire. Alors, certains diront, c'est parce que j'ai su la saisir. J'en sais rien, je suis avant tout un passionné. J'ai eu la chance de rencontrer un homme fabuleux, l'homme de celui qui avait créé la Comex à Marseille, qui travaillait un petit peu sur les sous-marins, mais qui est surtout un homme à des grands aventuriers, l'ennemi numéro un de Cousteau. Ils étaient tous les deux ensemble, et c'était deux caractères, etc. Et il me dit, regardez dans ma cour, je voyais tous les petits sous-marins de la plongée civile, toute l'aventure de la plongée civile, c'est la Méditerranée. Et il me dit, je vous donne tout. Oh bon. Alors moi, j'étais un peu sidéré devant ce cadeau, parce que je pensais même avoir touché le gros lot. Mais en fait, pourquoi il me donnait tout? Ben, il me l'a dit. Alors, vous le répétez surtout pas. Hein. Voilà, j'ai 75 balais. Un jour, je vais probablement disparaître. Je voudrais laisser une trace dans l'histoire. Le Var et les Bouches-du-Rhône se détestent. Toulon et Marseille se détestent. Et donc, toute l'histoire de la plongée civile que porte la Méditerranée, elle sera jamais traitée. Vous, vous avez la légitimité, vous êtes un battant, vous avez la légitimité de la descendre dans la mer avec le redoutage, je vous amène la plongée civile. Et c'est comme ça que tout s'est enclenché. J'avais quand même l'adversité complète des élus, des associations, des syndicalistes, parce qu'évidemment, l'Union européenne arrivait en promettant de l'argent, et donc mettre l'argent dedans et non dans la reconversion industrielle. Voilà, j'étais très ami avec quelqu'un qui avait été ministre en Lorraine, qui était un syndicaliste comme moi, Jacques Chérec, et qui avait voulu créer un Schtroumpfland du côté de la Lorraine, et on me disait, bien entendu, à Cherbourg, tu veux faire un Schtroumpfland. Donc voilà, c'était quand même ça. Et puis après, il s'est passé des hommes et des femmes de bonne volonté, des préfets qui ont été alors tout à fait à la hauteur, des présidents de départements, je me rappelle de Pierre Aguiton, Jean-François Legrand, à la région, il y avait René Garrigue, mais il y avait surtout Jean Calouac, le directeur, ancien ingénieur de l'armement. Donc j'ai créé une petite caste comme ça de gens qui ont soutenu ce projet, et c'est comme ça quelque part que ce projet est né. Il est né de passion, de rencontres, d'opportunités, de savoir saisir des choses. Moi, je ne connaissais rien à la mer, hein. Enfin si, comme vous et moi. Mon grand ami Jacques Rougerie, qui construisait des maisons sous la mer, dit de moi, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel qu'un type comme ça évoque, lui qui a quasiment peur de l'eau. Vous ne me ferez pas plonger à 3 mètres de profondeur, hein, c'est totalement exclu, ça me fout la trouille. Et donc, c'est tout, j'ai voulu, derrière ça, quoi faire? Redonner une fierté à ce bassin de vie. 2, une identité. J'en avais ras-le-bol, globalement, que personne, enfin que globalement, et même encore aujourd'hui, hein, que les Cherbourgeois, d'une manière générale, tournent le dos à la mer. Hein. On va parler de la Normandie tout à l'heure, mais c'est une vraie réalité. Paul disait tout à l'heure, à part les 10 premiers kilomètres, mais dans le Cotentin, entouré par la mer, à l'est, à l'ouest. Au nord, c'est même pas 10 km, c'est 1 km. C'est-à-dire on est sur des stratégies terriennes, etc. Il y a eu une évolution considérable ces dernières années. Je dois le dire d'ailleurs, en partie à cause et grâce au Conseil général de la Manche, qui a commencé à lancer des études. Et là, la notion de mer comme outil d'attractivité touristique est enfin apparue comme étant un élément premier. Donc, on voit bien que les consciences commencent à évoluer. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez impatient. Donc, je crois que c'est d'abord un enjeu d'identité, de fierté, parce que quand les gens sont fiers, quelque part, ils ont envie de soulever les montagnes, et non d'attendre chaque semaine le nucléaire qui vous fait dégringoler, des marchés publics, des machins, des trucs, et puis, il n'y a même plus qu'à se pencher, c'est le jackpot, alors c'est moins vrai maintenant, mais à l'époque, c'était ça, le jackpot, voilà. Donc, je crois que c'est ça. Et puis après, c'est des cheminements, quand vous êtes passionné, quand vous rencontrez des océanographes, un type comme Serrano qui vous dit « Moi, je parle à l'oreille des cachalots. » Vous écoutez ce type-là, il cause devant 300-400 gosses qui sont pendant 3 heures. Les profs me disent « On comprend rien. » Il n'y a même pas le bruit d'un stylo. On entend. C'est-à-dire, c'est la passion d'hommes et de femmes qui ont dédié leur vie, je crois, à l'océan, mais j'irai surtout à l'avenir des hommes et à l'humanité. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est la rencontre avec des personnes passionnées. C'est aussi l'envie à un moment de reconstituer le patrimoine, parce que cette gare maritime, elle avait vécu des moments de splendeur, mais à partir de 67, il n'y avait plus rien. Et puis de saisir les opportunités. Alors c'est vrai que quelque part, je suis un peu une grande gueule. Je crois que c'est ce qui m'a sauvé, souvent. Par exemple, en 2002, nous sommes convoqués par le préfet de région, Didier Cultio, à Caen. Il nous dit, le paquebot, le Queen Mary, le plus grand paquebot du monde, va arriver et va passer par Cherbourg en escale inaugurale. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Ah ben j'ai dit, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que les croisiéristes pourront passer entre les bassines, les lessiveuses, qui sont là pour protéger les parquets 33, parce que l'eau, ça fuit partout, etc. Et ce que savait faire l'État à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu. Ça avait fait à l'époque, c'est qu'en l'espace de peu de temps, ils ont mobilisé l'argent pour sauver cette salle, et que le Queen Mary II est arrivé, il y avait 150 000 personnes, puis s'est accueilli avec toute la... Sauf que cette salle, elle était réservée qu'aux croisiéristes. Et c'est là qu'arrive l'histoire de Titanic, dès 2008. Je me dis, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Titanic, c'est la seule escale, c'est Cherbourg, la seule escale de l'Europe continentale. Hein, autrement, c'était lié à l'histoire du Titanic, c'est le chantier de Belfast, c'est Liverpool, et c'est Coves, point barre. Et puis ici, New York aurait pu à l'arrivée, voilà. Et donc, c'est là qu'arrive cette idée de... Alors au début, on m'a pris pour un fou, mais ça c'est peut-être mon côté un peu aussi humaniste, envie de bouger les frontières, et toujours sur cette notion de l'humain. En 2004, le Queen arrive, la salle est entièrement, cette superbe salle est entièrement reconfigurée, restaurée à l'identique. Mais seuls les croisiéristes ont le droit d'y aller, le public n'a toujours pas le droit. Et dans le cas de Titanic, je me dis, il y a un sujet extraordinaire à mettre en œuvre dans cette superbe salle, bien qu'aucun n'ait passé par là, c'est les 50 millions d'émigrants qui ont quitté l'Europe à un moment et qui sont partis, le plus grand exode de l'humanité. Un certain nombre étaient passés par Cherbourg, pas tant que ça, 2 millions peut-être sur les 50. Pour là. Et donc, on a commencé à travailler, on s'est ramifié avec 13 grands musées dans le monde qui traitent de l'émigration. Et puis, on a traité ça par de l'audiovisuel, etc. Tout ça pour vous dire qu'à partir de là, on a voulu créer Titanic et que c'est une vraie caisse de résonance à ce niveau. Et donc... Mais ça veut dire, après, c'est toujours une bataille permanente. Quand vous avez envie de booster un site comme ça, vous le boostez à votre manière. Voilà. Et la même société RMS Titanic, c'est celle qui a remonté les 7000 objets, pour le moment, du champ de fouilles de l'épave, à Atlanta, m'avait proposé à une époque de faire une expo. C'était quand même à peu près 2 millions d'euros de location par an. Donc, inutile de vous dire que c'était... hors des clous de nos possibilités. Eh bien, aujourd'hui, ils vont nous envoyer l'année prochaine 53 objets gratuitement. Parce que, voilà, il y a des passions qui se font et qui se créent. Et puis enfin, dernière idée, si vous voulez, c'est 2008, Jacques Perrin souhaite, enfin, est en train de porter un film absolument sublime, Océan, qui est à la fois sur la beauté de la dernière planète sauvage pour nous, et en même temps un océan menacé, et veut à un moment tourner une séquence particulière dans un lieu magique pour parler du panthéon des espèces disparues. Voilà. Bon, vous savez, moi à l'époque, c'est quoi ce truc? Bon. Et Jacques est devenu un très grand ami, mais plus qu'un ami, et donc c'est de là, la rencontre avec ces gens-là, c'est là qu'est arrivée l'expo que vous avez aujourd'hui, qui est l'océan du futur. Et c'est là que j'ai découvert par ces gens-là que l'océan, aujourd'hui, représente quasiment l'avenir de l'humanité. À la fois parce que l'océan, vous le savez, couvre 72% de la planète. On n'en connaît que 5%. On ne connaît quasiment rien des fonds marins, puisque, en gros, bon, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la Cité amère? C'est un mec d'Ifremer, un jour, qui m'a dit « La grande dorsale, elle fait 60 000 km, on en connaît à peu près 60 km. Bon, » je me dis « La vache !» C'est autre chose que la Lune. Hein. Et ils vous disent, d'ailleurs, on connaît mieux la surface de la Lune que les grands fonds. Donc il y a cette espèce de magie et de rêve. Et je crois que là, on arrive à la dernière étape dont parlait Pascal. C'est-à-dire cette notion de relation à l'environnement et à l'avenir des hommes. C'est-à-dire que l'océan aujourd'hui, par les énergies, par l'alimentation, par les médicaments de l'avenir, parce que tout, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer dans ce domaine-là, j'y connais rien, n'ayez pas peur, mais c'est phénoménal. Le boulot que fait Tara, par exemple, la fondation Tara Exagoelet, 40 000 échantillons de relevés, ils se sont fait moquer d'eux par tous les scientifiques, ils reviennent avec ces 40 000, 8 000 aujourd'hui sont à peu près séquencés par génoscope, et ils découvrent des molécules, des polymères, ils découvrent des choses extraordinaires, ils sont en train de révolutionner la science. Pourquoi? Parce que le plancton... Moi, je vous en parle, je savais même pas ce que c'était, moi, quand on m'en a parlé. Plancton, c'est quoi? Eh ben oui, ben, le plancton, ça vous permet de respirer. Ça vous amène 50% de l'oxygène que vous respirez. 10 milliards d'organismes par litre d'eau de mer. Donc déjà, tout ça, eh ben avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben on essaye de faire rêver les enfants. Faire rêver les jeunes et leur dire, vous qui vous battez dans la rue, là, sur l'environnement, avec un certain nombre d'acteurs, battez-vous aussi pour l'océan, parce que c'est de l'océan que viendra probablement une grande part de l'avenir de l'humanité. Et comme le dit Jacques Perrin, il n'y aura pas d'océan de rechange. Et dès aujourd'hui, il est menacé dans beaucoup de difficultés. Donc on a, en octobre 2019, on a réussi comme ça à regrouper 2300 jeunes collégiens. J'espère qu'on va aller plus loin maintenant, parce qu'on va essayer de faire ça par téléporter tout ça. Et on a créé Génération Océan. C'est-à-dire par des grandes voies de l'océan, des scientifiques, des biologistes, j'irais surtout des scientifiques et des biologistes qui savent parler aux jeunes, avec leur langage d'aujourd'hui, qui vont les passionner. On essaie de faire comprendre que, voilà, c'est ça l'océan, c'est ça l'avenir, et maintenant, battez-vous. Alors, battez-vous sur les microplastiques, sur tout ce que vous voulez, et on vous aidera. Et je suis en train de solliciter des entreprises privées pour nous aider à porter ce fonds de dotation qui aidera les jeunes, peut-être les moins jeunes d'ailleurs, à porter des projets comme ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette étape... elle est effectivement dans la notion de l'océan qu'on ne connaît pas. J'ai un grand ami, c'est Jacques Rougerie, il a une phrase que je trouve formidable. Sur la connaissance de l'océan, on en est à l'âge de Cro-Magnon. C'est-à-dire que plus on se penche dessus, plus on découvre des choses insensées. Et c'est pour ça que dans le parcours, si un jour vous allez dans la Cité de la Mer, j'espère que vous y avez été, mais en tout cas vous y retournerez, dans le parcours de l'océan du futur, il y a un moment où on présente des espèces. Et ça, c'est dont une espèce, moi, je suis totalement amoureux, je ne connaissais pas. Ce sont les limules. Les limules, c'est une espèce, c'est ce qui a d'ailleurs permis de faire le film Alien. Hein. C'est à peu près la forme, c'est effrayant. En fait, cet animal, c'est le symbole de la Cité de la Mer. C'est-à-dire que cet animal, il était broyé pour en faire de l'engrais naturel, parce que ça pullulait dans le golfe du Mexique et dans beaucoup d'endroits. Et quand on n'en a pas d'utilité économique, les hommes, ben, on prend, etc. Puis un jour, il y a un scientifique américain qui a découvert que cet animal était chargé de sang bleu, de sang cuivre. Et aujourd'hui, cet animal, on va lui chercher le sang pour en faire un traceur sur les risques de bactériologiques sur les outils de chirurgicaux. Maintenant, son sang est à 10 000 euros le litre. Seulement, le risque, c'est qu'on pille ce sang n'importe comment, etc. Donc tout ça pour dire que on découvre sans arrêt aujourd'hui des choses extraordinaires. Et je crois que là-dedans, la question qu'il faut se poser, c'est la question que j'ai posée plusieurs fois, moi, modestement, au président Hervé Morin, et la Normandie, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est en train d'aller très vite. Est-ce qu'on sera sur la ligne de départ? Aujourd'hui, les biotechnologies bleues que vous avez en Normandie, elles sont éclatées à Algaïa, à Saint-Lô, Cargill, etc. Vous avez Batteur, le groupe Batteur à Hérouville. Il y en a partout. Il y a des laboratoires à Caen. Mais il n'y a aucune vision globale et aucune approche globale. C'est en quoi Hervé Morin, qui me connaît depuis longtemps, m'a dit, écoute, ça serait bien que tu t'en charges. Bénévolement, bien entendu. J'ai dit, il faut quand même travailler autrement. C'est ce que je reproche, moi, à la Normandie aujourd'hui, et j'espère que ça va. Et on travaille là-dessus au niveau de l'attractivité. C'est qu'enfin, cette région et les Normands comprennent enfin qu'ils sont dans une grande région maritime. Que vous interrogez un Normand moyen, c'est pas péjoratif ce que je dis. La mer, pour vous, région, etc., Bretagne, fermez le banc. Alors qu'il y a 800 km de littoral, qu'il y a des producteurs, que c'est les premiers ports coquillés, etc. Et il n'y a pas cette envie de... Donc c'est ce qu'on essaie, nous, de faire. Et c'est pour ça que moi, l'ambition que j'ai donnée à la Cité de la Mer aujourd'hui, c'est d'en faire un des grands centres européens d'éducation à la mer. Je pense que s'il n'y a pas cette mutation culturelle... Moi, j'ai admiré ce qu'a dit Paul tout à l'heure. Le vrai problème, c'est qu'il faut arriver à convaincre les citoyens. Oh, j'attends plus des gouvernants, moi. J'ai été parlementaire, alors que ce soit à gauche ou à droite, ils viennent tous très souvent du milieu rural. Il n'y en a pas un qui comprend la mer, ou pas souvent. Le dernier grand ministre de la mer que j'ai connu, moi, c'est 1981, Louis Pinsec. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas cette notion. Mais il faut que ce soit les citoyens, les associations, les départements, les régions qui se mobilisent pour bouger cette culture, parce que je crois que c'est d'abord un enjeu économique phénoménal, c'est un enjeu d'avenir de nos sociétés humaines, et c'est là qu'on a tout ce travail à faire, moi modestement, avec 250 000 visiteurs par an, enfin, avant Covid, quand même, on essaye, justement, d'éduquer, mais dans ce que j'appelle, moi, l'éducation populaire. C'est-à-dire cette capacité à faire comprendre à un ado, par l'émotion, par la beauté des images, par la force du vivant, par le discours, faire comprendre que là se passe l'enjeu. Et si, sur 300 gosses qui viennent, il y en a un qui finit un jour océanographe, qui finit dans la biologie, etc., on aura déjà gagné une partie de notre objectif. Je crois que c'est ça. C'est ça aussi une mission pour moi à ce niveau-là. Je situe de mission de service public. Voilà.
Oh, je t'ai merci. Dit long, bon. Merci Bernard Ménontien. Paul, sur Villeport, tu voulais redémarrer.
Je voulais en parler. Il faut, parce qu'en fait, ça va être en résonance avec nos trois propos. Je crois que Villeport est un échec en France et il est partout pour une raison simple, c'est que la gentrification de Villeport, le fameux Baltimore, je me souviens des dossiers de New Haven, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, pour des questions, alors c'est le géographe qui doit parler aussi de l'urbanité, l'esprit de l'urbanité, ce qu'on peut faire, ce que font les classes supérieures, ce qu'elles font, c'est aller ou dans des banlieues cossues ou dans des lofts de bord de port, ça ne marche pas en France. Ça ne marche pas et le Villeport est un vrai échec si on le voit de ce côté-là, c'est-à-dire essayer de mettre des habitants dans ces zones reconstruites. La preuve est en Nantes aussi, où on espère d'avoir un mélange sur l'île de Nantes et les habitants sont très mécontents parce qu'on leur a fait une zone de bar et de divertissement qui est le bout du quai des bananes, qui a un défaut, c'est que justement c'est un lieu populaire et de jeunes qui ne font que des nuisances et n'ont pas un côté, ce n'est pas la marine à Sydney, ce n'est pas les bords de l'Elbe à Hambourg, et pour des cas que je connais, etc. Donc ça c'est un échec. D'un autre côté, on a une vraie réussite de nos villes-ports, c'est, comment j'ai appelé ça, la plaine des outils collectifs. Et ça marche très bien. On le voit au Havre, on a une piscine, un centre commercial, un centre de spectacle, on a deux écoles, trois écoles, etc., etc. À Saint-Nazaire, on a un théâtre, un hôtel, une base sous-marine qui est devenue un musée, enfin un centre de découverte, etc. On a même un supermarché, etc. Donc on arrive très bien à faire ces équipements collectifs qui rentrent dans la, qui rentrent dans la pratique quotidienne et ça marche à peu près.
Ça, c'est la mixité.
C'est-à-dire qu'on rate, en fait, on rate finalement la mixité sociale, la population, et on réussit les équipements collectifs. Et du coup, Et c'est pour ça que je vous ai mis le poster. Alors, c'est le poster des 20 ans de l'ISEMARC que j'ai fait faire par Antoine Corbineau, qui est un créatif nantais très connu, qui fait des atlas, etc. Pour 3500 euros, j'ai eu les posters des 20 ans qu'on distribuait et qu'on mettait ça. Pourquoi je mets ça? Parce que on peut, par contre, récupérer quelque chose. C'est que, finalement, cet endroit réinventé qu'est le Vieux-Port a un intérêt économique, patrimonial et culturel et identitaire. C'est-à-dire que ça doit être aussi un lieu au travers de la muséographie, de la transformation des outils du patrimoine historique, une image de la Vieux-Port. Et que, finalement, moi, j'ai un peu écrit là-dessus. Il y avait un forum urbain de l'Ouest, là, à Nantes, qui s'est fait il y a 2 ans, et j'étais intervenu là-dessus, et je montrais justement, et c'est le sens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous apercevez qu'une ville portuaire aujourd'hui, elle doit se réinventer justement par ses outils culturels, par ses grands équipements, par l'inventivité architecturale, créative, et que ça rentre dans la modernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hambourg, vous avez visité Hambourg, même pour les affaires portuaires, ça a de la gueule, l'Elbe Opéra, l'Elbe Philharmonie, les docks de Liverpool, le musée de Glasgow. Vous voyez, à Anvers, c'est le bâtiment de l'autorité portuaire où l'architecte syrienne, la Zayad, je ne sais plus comment, a fait cette espèce de berceau métallique. Alors, Nantes, par exemple, un peu du mal à se réinventer. L'éléphant commence un peu à arriver. Bon, nous, Saint-Nazaire, c'est un peu particulier. Avec une question toujours, c'est l'appropriation. Juste une partie de Saint-Nazaire. Bateau s'est battu 20 ans pour faire un Vieux-Port qui est un échec populaire. C'est un échec du point de vue des c'est une réussite du point de vue des équipements, mais de l'appropriation populaire. Mais il a réussi à introduire sa ville côtière et on a un aménagement du front de mer qui est très réussi. Place du Commando avec des bars, etc. Et on prend là, il y a du soleil en plus à Saint-Nazaire, hein, puisque c'est la côte de l'Atlantique qui est plutôt ensoleillée. Il y a les bateaux qui passent et les gens qui boivent des bières sur les chaises. Et c'est pour ça que c'est important. Et puis, c'est important de réussir finalement cette appropriation culturelle avec des outils collectifs culturels massifs, des œuvres architecturales ou pas. Et j'adore l'histoire du Havre avec les conteneurs. Les conteneurs sont éphémères et pourtant ils vont rester. Et aujourd'hui, je regrette cette image de 2017. Je referai aujourd'hui la carte pour le Havre, je mettrai les conteneurs. Et pourtant, les conteneurs sont éphémères et ils vont rester parce qu'il y a une appropriation collective. Parce que quand il fait beau au Havre, on est content de se prendre avec les conteneurs. Et ça prouve que demain, peut-être plus que le volcan, plus que tous les équipements culturels pensés, repensés, dépensés, je veux dire, sur les bassins du Havre, peut-être que les conteneurs vont devenir peut-être la plus belle image aujourd'hui. Parce que quelque part, elle rentre dans un image. Et c'est ça qui est important, c'est l'imaginaire collectif qu'on peut construire et que les gens qu'on construit. Et forme de dialectique entre comment les gens s'approprient l'espace. Regardez Marseille, le MUCEM, on y va pour le plaisir de faire la passerelle et d'être pris dans la lumière. On n'y va pas pour aller voir l'expo, qui est souvent, j'allais dire, une grossièreté. Mais c'est ça qui est important, c'est que le MUCEM permet d'une identité, les docks, etc. Et c'est ça qui est. Et je comprends que pour l'élu, ça soit difficile d'essayer de concevoir ces outils. Comment on va l'approprier? Et vous voyez, entre ville-port, entre port de commerce et identité et patrimoine, on voit bien que, enfin, c'est pour ça que j'essaye cette synthèse un petit peu, que le triangle est facile, mais bon, encore une fois, c'est une magie qui doit être entre les populations, les lieux et le bassin économique. Voilà ce que je voulais un peu dire.
Merci Paul. Vincent, si vous voulez amorcer, et puis après, nos amis de la salle vont continuer.